J'ai reçu du Seigneur, c'est aussi qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? Ça, c'est quand même une question importante hein, que chacun d'entre nous devrait se poser. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? J'en ai parlé déjà un petit peu à la réunion de prière. Bon, donc je m'excuse pour ceux qui l'auront déjà entendu en partie, mais je pense que je vais. Le Seigneur m'a conduit à en reparler. Bon, je vais te lire deux textes qui se trouvent tous les deux dans l'Évangile. Bon, je lirai d'abord dans l'Évangile de Luc, hein, au chapitre 10, à partir du verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va, agis de la même manière, toi aussi. Un autre passage dans l'évangile de Marc, cette fois-ci au chapitre 10, à partir du verset 13. Des gens lui amenaient à Jésus des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras, et il les bénit en posant les mains sur eux. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Dans les deux passages que tu viens de lire, il y a quelque chose de commun. Deux personnes, le jeune homme riche dont je viens de parler, et puis un docteur de la loi, qui posent à Jésus la même question. Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? C'est une bonne question, non ? Je pense qu'il y a
un certain nombre d'entre nous qui se la posent aussi de temps en temps, cette question. Et curieusement, on voit que dans les deux passages que je viens de lire, la réponse de Jésus n'est pas la même. Il ne dit pas la même chose. On va essayer de faire la comparaison. Dans l'épisode du jeune homme riche, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai toujours trouvé un petit peu que Jésus était dur avec ce jeune homme. Il lui dit d'abord simplement « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et d'entrée, voilà que Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que Dieu qui est bon. » Comme entrée en matière, vous avouerez quand même qu'il y a quand même mieux, non ? Il se fait un peu rembrouer. Et puis, il lui dit tout de suite, « Tu connais les commandements. » Et regardons les commandements qu'il cite. Donc, je reprends, 20-10. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Voilà. Tous ces commandements, nous les connaissons, ils sont tirés des 10 commandements. Mais vous avez remarqué que les 10 n'y sont pas. Ils n'ont pas tous. Et tous les commandements dont il est question ici, ce sont des commandements pour des choses à ne pas faire. Le jeune homme riche s'était adressé à Jésus, il lui avait dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et voilà que Jésus, à travers les commandements qu'il dit, finalement, il lui répond ce qu'il ne faut pas faire. Non, il ne faut pas faire. Il lui fait des reproches. Bon, alors, finalement, ce jeune homme dit que ces commandements-là, il les a tant bien que mal accomplis. Il dit, j'ai fait ça, j'ai pratiqué ces choses depuis la naissance. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus regarda cet homme. Il était interpellé quand même parce que ce que jeune homme vient de lui dire. Il l'a regardé. Pourquoi l'a-t-il regardé ? Pour discerner si ce qu'il venait de dire, c'était vrai, au moins en partie. Vous voyez, quelqu'un qui vient et puis dit « Moi, j'ai toujours accompli depuis ma naissance les commandements de Dieu. » C'est quand même suspect. Bon, donc, je pense que Jésus l'a regardé et puis il a trouvé quand même en ce jeune homme que c'était en grande partie vrai quand même, ce qu'il venait de dire. Et la parole de Dieu dit, il l'aima. Il avait été dur un peu au départ, mais finalement, après l'avoir entendu, il l'aima. Et il lui dit simplement, il te manque encore quelque chose. Il dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. Ah, vous allez me dire, ça, c'est quand même dur. Imaginez que Jésus vous dise ça. Vous êtes prêt à le faire ? Je ne vous demanderai pas de répondre. Parce que pas évident quand même. Pas évident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, j'ai lu un autre passage où Dieu demande à quelqu'un quelque chose de très dur. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a demandé à Abraham quelque chose de terrible aussi. Il lui a demandé d'aller sacrifier son fils unique pour Dieu. Mais nous pouvons remarquer une chose, c'est que finalement, est-ce que Abraham est allé jusqu'au bout ? Est-ce que Isaac, le fils d'Abraham, est mort ? La réponse est non. Le Seigneur voulait simplement savoir, connaître, si Abraham était prêt à aller jusqu'au bout. Et avec ce jeune homme riche, je pense que c'est ça aussi. Il dit, il voulait savoir s'il était prêt à abandonner ce qu'il a pour lui était cher, c'est-à-dire ses richesses. Il est probable, c'est moi qui le dis, mais je ne pense pas que je me trompe.
Que le Seigneur lui aurait dit, bon, j'ai vu que tu étais prêt à le faire.
C'est ça qui est formidable. Vous comprenez ? Ah, bon, et je pense qu'il ne faut pas croire non plus que le Seigneur nous demande quelque chose d'exorbitant, quelque chose qui soit impossible pour nous à faire, mais il nous met à l'épreuve quelquefois pour voir si nous sommes prêts à le suivre. C'est ça l'explication de la dureté du message que Jésus a donné à ce jeune homme. Mais je reviens simplement à justement cette dureté. Comment se fait-il que Jésus soit un peu agacé ? Parce que finalement, quand Jésus est venu, quand ce jeune homme riche est venu lui poser cette question-là, il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Bon, il lui répond tout de suite d'entrée « Il n'y a que Dieu qui est bon. » Bon, ça dénote quand même un certain agacement de Jésus par rapport à la question qui était posée. Pourquoi Jésus était-il agacé ? Vous savez, quand on tire un verset comme ça de la parole de Dieu, quelquefois on le sort un petit peu de son contexte, on ne lit pas trop ce qu'il y a avant, ni trop ce qu'il y a après, et on en tire quelquefois un enseignement qui n'est pas tout à fait juste. Le passage qui est juste avant le passage du jeune homme riche, je l'ai lu tout à l'heure. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de gens qui sont venus apporter des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Peut-être que certains de ces enfants étaient malades et ils voulaient que Jésus les touche. Alors les disciples ont été agacés. Ils étaient agacés par de ces gens qui étaient venus apporter les enfants. Parce que les disciples, ils pensaient probablement que Jésus avait d'autres chats à fouetter. Il fallait que Jésus s'occupe des choses plus importantes. Il faut dire que les questions qui étaient posées à Jésus, souvent par des pharisiens et des docteurs de la loi, c'était des questions d'un autre ordre. Par exemple, question du style « Faut-il payer le tribut à César ?» Ça, c'est une question importante. Est-il juste que l'on guérisse un malade le jour du Shabbat ? Voilà une question importante. Bref, il fallait qu'on discute de hautes questions de théologie auxquelles on aurait pu installer sa science, faire montrer à tout le monde que l'on connaissait le grec et l'hébreu. Jésus dit « Arrête, ces gens sont nus avec leurs enfants. » Parce que peut-être ils étaient malades. Peut-être ils avaient besoin d'être réconfortés. Ils s'étaient indignés de l'attitude de ses disciples. « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Il les a pris dans ses bras. Il les a touchés. Il les a bénis. C'est plus important pour Jésus de prendre les enfants dans ses bras que de discuter de la haute théologie avec les docteurs de la loi. C'est ça qu'il fallait comprendre. Alors, dans ce contexte-là, c'est arrivé juste après, le jeune homme riche, il est venu, il dit, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Bon, j'espère que je ne vous force pas en disant ça. Pour le Seigneur, il dit, « En voilà encore un. » En voilà encore un qui est beaucoup plus intéressé par avoir une grosse discussion théologique que de s'intéresser aux enfants qui sont là et qui ont besoin. C'est pour ça que Jésus, à mon avis, était un petit peu courroucé. Dans un premier temps, il a donc répondu un petit peu, de façon un peu vive. Mais finalement, quand il a vu quand même que l'attitude de ce jeune homme était une attitude correcte, bon, il est revenu et il l'aima. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé que le jeune homme comprenne pleinement ce que Jésus lui disait. Malheureusement, il est parti tout triste, mais c'est dommage. Bon, je reviens maintenant à l'autre personnage que dont j'ai parlé, dans l'autre passage. Là, il s'agit d'un docteur de la loi. Donc un pharisien, si vous voulez, un docteur de la loi. Et il a posé la même question. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Là, la réponse, ce n'est pas la même. D'abord, Jésus ne commence pas à lui citer les Écritures, mais c'est Jésus qui demande à ce docteur de la loi de citer les Écritures. Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Et curieusement, le docteur de la loi ne va pas redire les mêmes commandements dont on a aujourd'hui parlé. Il ne parle pas du « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol », etc. Il ne parle pas de ça. Il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. C'est ça que le docteur de la loi lui répond quand Jésus lui demande ce qui est écrit dans la loi. Et Jésus lui a répondu, « Tu as bien répondu. Et toi, fais le même. » Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Après, cet homme demande à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Bon, après, il y a cette histoire du Samaritain. Mais qui a-t-il finalement dans cette histoire du Samaritain? Jésus met en avant deux attitudes. L'attitude du Lévite, c'est-à-dire du prêtre, qui est probablement préoccupé par la façon dont il va faire ses obligations liturgiques, et qui passe à côté d'un blessé sans même le regarder. Et puis, il y a un Samaritain. Samaritain, c'était quelqu'un qui n'était pas très bien vu des Juifs. C'était quelqu'un pour lequel on avait toujours de la suspicion. Mais lui, il s'est occupé de cet homme blessé. Il a même payé de l'argent, il a même donné de l'argent pour que cet homme puisse s'en sortir. Et à la fin, Jésus pose la question à ce docteur de la loi qui était venu lui poser cette question. À ton avis, lequel des deux, entre le Samaritain et le prêtre, a-t-il été le prochain de celui qui était blessé? La réponse était évidente. C'était le Samaritain. Je crois qu'une chose est vraiment très, très importante. J'ai quelquefois, je suis surpris quand j'entends le discours de certains chrétiens. On insiste énormément sur ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne mettras pas de faux témoignage contre ton prochain, etc. Tout ça est juste, bien sûr, tout ça fait partie de la parole de Dieu. En clair, si je résume tout ça, c'est « tu ne pécheras pas ». C'est ça, en gros. Mais je vais vous dire ça, je vais vous dire quelque chose et vous de réfléchir un peu. Le péché, c'est ça qui a fait que Jésus a été obligé de venir sur terre et mourir sur une croix. Il est mort sur la croix à cause de mon péché, à cause de votre péché. À chaque fois que vous péchez, on enfonce des clous dans les mains de notre Seigneur Jésus. On est bien d'accord? Alors, le premier des commandements, celui que Jésus a rappelé, enfin plutôt que le maître de la loi ici a rappelé, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Beaucoup d'entre nous ici, il y a des hommes. Je parle aux hommes et je pourrais parler aux femmes, c'est la même chose. Si vous êtes marié, vous dites à votre femme, « Je t'aime ma chérie, la preuve !» Je n'ai pas enfoncé des clous dans tes poignets. Il n'y a pas un problème, non? Vous croyez?
Vous croyez qu'une preuve d'amour, c'est de ne pas enfoncer des clous dans les poignets de votre épouse ? Eh bien, dites donc, hein, si vous n'avez pas d'autre preuve d'amour que celle-là, bonjour. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si nous nous contentons de respecter les commandements à qui nous parlent des choses que nous ne devons pas faire, nous n'avons pas accompli du tout le premier des commandements. Le premier des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». Ben bien sûr, si je lui enfonce des clous dans les poignets, ça, c'est pas un manque de... c'est pas de l'amour, ça, c'est clair. Mais ça, tout le monde le sait. Mais le fait de ne pas enfoncer des clous dans ses poignets, c'est quand même pas une preuve d'un grand amour. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le Seigneur attend autre chose. Donc, je veux dire que être chrétien, ce ne veut pas dire simplement essayer de ne pas pécher. Ça veut dire aussi essayer de faire ce pourquoi le Seigneur m'a créé. Quand Jésus a été baptisé, il s'est fait entendre une voix venue du ciel. Qu'est-ce qu'elle disait, cette voix ? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Dieu aimait énormément son fils ? Ça, c'est vrai que Dieu aimait énormément son fils. Mais ça veut dire autre chose. C'est que Dieu a mis en Jésus son amour pour le monde. Et que si nous sommes aussi baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu veut mettre aussi en nous son amour pour le monde. Je rappelle, je cite la parole de Dieu, je ne sais plus la référence, mais peut-être que certains pourront me la souffler. Celui qui n'aime pas son frère et qui prétend aimer Dieu est un menteur. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Alors, ce que le Seigneur attend de moi, bien sûr, il attend de moi que je ne pêche pas. Parce que ça ne lui plaît pas d'avoir des clous dans les poignets, ça c'est clair. Mais ce n'est pas parce que je ne mets pas des clous dans les poignets que je l'aime pour autant. Le Seigneur attend de moi que je manifeste mon amour. Je lirai un dernier passage qui se trouve aussi dans l'Évangile. Bon, j'ai lu 3 évangiles aujourd'hui. Hein. Luc, Marc, maintenant c'est Matthieu. Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns les autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à tous ceux qui seront à sa droite, « Venez, qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et quand t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons habillé ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi ?» Et le roi leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ça à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons pas servi ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne m'avez pas fait cela à un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur, pour ton enseignement. Pour ce que tu nous dis. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas un iota de la loi qui serait aboli. Mais tu nous dis aussi que la chose la plus importante, c'est encore une fois l'amour. Jésus a dit ceci en particulier au docteur de la loi qui était chipoteur sur les textes. Lequel d'entre vous, hypocrite que vous êtes, si le jour du Shabbat, votre âne ou votre bœuf est tombé dans un marécage, ne va pas aller le chercher. Le Shabbat a été donné pour l'homme. Et c'est pas l'homme qui a été fait pour le Shabbat. N'avez-vous pas compris aussi que quand David eut faim, il a pris des pains de proposition que seuls les sacrificateurs devaient prendre parce qu'il a eu faim. La loi, dans les prescriptions strictes, quand elle est manque d'amour, ça n'est pas la loi de Dieu. C'est la loi de la dureté, c'est la loi de la méchanceté, c'est la loi du légalisme. Encore une fois, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Je ne dis pas que toutes ces prescriptions-là sont à mettre à la poubelle. Mais comprenons que le premier des commandements, et Jésus dit que c'est en celui-là que toute la loi est résumée, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton être et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Si je ne comprends pas ça, je peux faire de la philosophie à deux balles, à la théologie avec un grand T. Pas ta théologie, excuse-moi. Tu peux la mettre où tu veux. Vous savez, je parlais tout à l'heure de notre frère Sylvain Gauthier, qui va venir, canadien. Moi, j'ai été frappé par un enseignement qu'il nous a donné un jour. Il l'a répété d'ailleurs plusieurs fois. Un jour, il se trouvait dans une réunion. Et le Seigneur lui dit ceci, puisque c'est quelqu'un qui a un ministère de prophète, va bénir cette femme-là. Alors, cette femme-là, il avait la pensée qu'elle était enceinte et qu'elle n'était pas mariée. Alors, il dit quand même, je ne peux pas aller bénir une femme comme ça. Vous savez ce que le Seigneur lui a répondu ? J'en ai rien à faire de ta théologie. Va la bénir, parce que je te le demande. Ça n'a rien à faire de ta théologie. Pourquoi ? Cette femme, il s'est avéré qu'elle était effectivement enceinte. Au moment où on lui dit ça, elle ne le savait pas. Mais quand elle a dit à son compagnon, qui était le père de l'enfant, qu'elle était enceinte, son compagnon a dit, « Bon, mais j'en veux pas, ce bébé. Il faut l'avorter. » La femme a dit, « Non, ce bébé a été béni. Jamais je n'avorterai. » Le Seigneur a permis que ce bébé soit protégé. Alors, en apparence, c'est une transgression à aller bénir une femme qui avait, bon, j'insiste pas, vous avez tous compris. Je veux dire que Dieu est plus fort que ce genre de commandement, est plus fort que la méchanceté des hommes. C'est l'amour qui trône avant tout. Encore un exemple, j'en terminerai par ça. Un exemple qu'on voit dans l'Ancien Testament, avec le roi Salomon. Un jour, deux femmes viennent auprès de Salomon pour qu'il exprime un jugement. Les femmes avaient toutes les deux eu un bébé. Et l'un des deux bébés était mort. Et celle dont le bébé était mort avait pris le bébé de l'autre femme et prétendu que c'était le sien. Alors elles étaient venues toutes les deux devant le roi Salomon pour qu'il exerce un jugement. Ça aurait été maintenant, on aurait fait des tests, hein, on aurait vu, mais à ce moment-là, ça n'existait pas. Donc c'était simplement au flair. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? Couper le bébé en deux. Et donner une partie du bébé à chacune des deux femmes. Alors, celle qui était véritablement la mère a dit non. Je préfère que cette femme prenne le bébé. Alors Salomon a dit, c'est à cette femme-là qu'il faut donner le bébé, parce que c'est elle la vraie mère. Salomon ne savait pas, mais il a laissé, je dirais, parler l'amour. L'amour a parlé. Et quand l'amour parle, c'est Dieu qui parle. C'est Jésus qui parle. Moi, je ne veux pas me laisser guider par des textes qui sont trop durs. La parole de Dieu nous est donnée, mais la lettre tue, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même. Mais l'Esprit vivifie. Seigneur, je te prie pour que nous ne soyons pas des pharisiens. Je te prie pour que nous comprenions vraiment quel est l'appel de Dieu. Que je comprenne vraiment ce à quoi tu m'appelles. Tu ne m'appelles pas simplement à ne pas pécher, à ne pas fumer, à ne pas voler, à ne pas dire de méchanceté. Tu m'appelles aussi à vivre l'amour près de moi. Montre-moi aussi ce que je dois aller visiter. Donne-moi les paroles, Seigneur, qui vont réconforter celui qui est dans la peine. Seigneur, c'est pour ça que tu me vois, que tu me donnes le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction pour que je puisse aller porter la guérison à ceux qui sont malades, pour que je puisse parler de la liberté à ceux qui sont captifs, pour que je puisse aller redonner de l'espérance à ceux qui sont perdus. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Amen.